Quantité de paroles révélatrices montrent qu'il en est ainsi. Combien de fois, par exemple, n'entend-on pas répéter ce lieu commun ? Catholiques, protestants, juifs ou libres penseurs, nous sommes tous français. Exactement comme s'il s'agissait de petites fractions territoriales du pays. Comme on dirait, Marseillais, Lyonnais ou Parisiens, nous sommes tous français. Dans des textes émanés du pape, on peut lire non seulement du point de vue chrétien, mais plus généralement du point de vue humain. Comme si le point de vue chrétien, qui ou bien n'a aucun sens, ou bien prétend envelopper toute chose dans ce monde et dans l'autre, avait un degré de généralité moindre que le point de vue humain. On ne peut concevoir un aveu de faillite plus terrible. Voilà comment se paient les anathémacites. En fin de compte, la religion, dégradée au rang d'affaires privées, se réduit au choix d'un lieu où aller passer une heure ou deux le dimanche matin. Ce qu'il y a là de comique, c'est que la religion, c'est-à-dire la relation de l'homme avec Dieu, n'est pas regardée aujourd'hui comme une chose trop sacrée pour l'intervention d'aucune autorité extérieure, mais est mise au nombre des choses que l'État laisse à la fantaisie de chacun comme étant de peu d'importance au regard des affaires publiques. Du moins, il en a été ainsi dans un passé récent. C'est là la signification actuelle du mot de tolérance. Ainsi, il n'y a rien hors l'État où la fidélité puisse s'accrocher. C'est pourquoi, jusqu'à 1940, elle ne lui avait pas été refusée. Car l'homme sent qu'une vie humaine sans fidélité est quelque chose de hideux. Parmi la dégradation générale de tous les mots du vocabulaire français qui ont rapport à des notions morales, les mots de traître et de trahison n'ont rien perdu de leur force. L'homme sent aussi qu'il est né pour le sacrifice, et il ne restait plus dans l'imagination publique d'autres formes de sacrifice que le sacrifice militaire, c'est-à-dire offert à l'État. Il s'agissait bien uniquement de l'État. L'illusion de la nation, au sens où les hommes de 1789, de 1792 prenaient ce mot, qui faisait couler alors des larmes de joie, c'était là du passé complètement aboli. Le mot même de nation avait changé de sens. En notre siècle, il ne désigne plus le peuple souverain, mais l'ensemble des populations reconnaissant l'autorité d'un même État. C'est l'architecture formée par un État et le pays dominé par lui. Quand on parle de souveraineté de la nation aujourd'hui, cela veut dire uniquement souveraineté de l'État. Un dialogue entre un de nos contemporains et un homme de 1792 mènerait à des malentendus bien comiques. Or, non seulement l'État en question n'est pas le peuple souverain, mais il est identiquement ce même État inhumain, brutal, bureaucratique, policier, légué par Richelieu à Louis XIV, par Louis XIV à la Convention, par la Convention à l'Empire, par l'Empire à la Troisième République. Qui plus est, il est instinctivement connu et haï comme tel. Ainsi, on a vu cette chose étrange, un État, objet de haine, de répulsion, de dérision, de méprise et de crainte, qui, sous le nom de patrie, a réclamé la fidélité absolue, le don total, le sacrifice suprême, et les a obtenus de 1914 à 1918 à un point qui a dépassé toute attente. Il se posait comme un absolu ici-bas, c'est-à-dire comme un objet d'idolâtrie, et il a été accepté et servi comme tel, honoré d'une quantité effroyable de sacrifices humains. Une idolâtrie sans amour, quoi de plus monstrueux et de plus triste ? Quand quelqu'un va, dans le dévouement, beaucoup plus loin que son cœur ne le pousse, il se produit inévitablement par la suite une réaction violente, une sorte de révulsion dans les sentiments. Cela se voit souvent dans les familles, quand un malade a besoin de soins qui dépassent l'affection qu'il inspire. Il est l'objet d'une rancune refoulée parce qu'inavouable, mais toujours présente comme un poison secret. La même chose s'est produite entre les Français et la France après 1918. Il lui avait trop donné. Il lui avait donné davantage qu'il n'avait dans le cœur pour elle. Tout le courant d'idées antipatriotiques, pacifistes, internationalistes d'après 1918 s'est réclamé des morts de la guerre et des anciens combattants. Et quant à ceux-ci, ils émanaient réellement dans une large mesure de leur milieu. Il y avait aussi, il est vrai, des associations d'anciens combattants intensément patriotiques. Mais l'expression de leur patriotisme sonnait creux et manquait tout à fait de force persuasive. Elle ressemblait au langage de gens qui, ayant trop souffert, éprouvent continuellement le besoin de se rappeler qu'ils n'ont pas souffert pour rien. Car des souffrances trop grandes, par rapport aux impulsions du cœur, peuvent pousser à l'une ou l'autre attitude. Ou on repousse violemment ce à quoi on a trop donné, ou on s'y accroche avec une sorte de désespoir. Rien n'a fait plus de mal au patriotisme que l'évocation, répétée à satiété, du rôle joué par la police derrière les champs de bataille. Rien ne pouvait blesser davantage les Français, en les forçant à constater, derrière la patrie, la présence de cet état policier, objet traditionnel de leur haine. En même temps, les extraits de la presse, extravagante d'avant 1918, relus après coup dans le sang-froid et avec dégoût, rapprochés de ce rôle de la police, leur donnaient l'impression d'avoir été roulés. Il n'est rien qu'un Français soit moins capable de pardonner. Les mots mêmes qui exprimaient le sentiment patriotique ayant été discrédités, ils passaient en un sens dans la catégorie des sentiments inavouables. Il y a eu un temps, et il n'est pas loin, où l'expression d'un sentiment patriotique dans les milieux ouvriers, du moins dans certains d'entre eux, aurait fait l'effet d'un manquement aux convenances. Des témoignages concordants affirment que les plus courageux en 1940 ont été les anciens combattants de l'autre guerre. Il faut seulement en conclure que leurs réactions d'après 1918 ont eu une influence plus profonde sur l'âme des enfants qui les entouraient que sur la leur propre. C'est un phénomène très fréquent et facile à comprendre. Ceux qui avaient 18 ans en 1914 ont eu leur caractère formé au cours des années antérieures. On a dit que l'école du début du siècle avait forgé une jeunesse pour la victoire et que celle d'après 1918 a fabriqué une génération de vaincus. Il y a certainement là beaucoup de vrai. Mais les maîtres d'école d'après 1918 étaient des anciens combattants. Beaucoup des enfants qui ont eu 10 ans entre 1920 et 1930 ont eu des instituteurs qui avaient fait la guerre. Si la France a subi l'effet de cette réaction plus que d'autres pays, cela est dû à un déracinement beaucoup plus aigu, correspondant à une centralisation étatique bien plus ancienne et plus intense, à l'effet démoralisant de la victoire et à la licence accordée à toutes les propagandes. Il y a eu aussi rupture d'équilibre et compensation par rupture en sens inverse autour de la notion de patrie dans le domaine de la pure pensée. Du fait que l'État était demeuré au milieu d'un vide total, la seule chose qualifiée pour demander à l'homme la fidélité et le sacrifice, la notion de patrie se posait comme un absolu dans la pensée. La patrie était hors du bien et du mal. C'est ce qu'exprime le proverbe anglais right or wrong, my country. Mais souvent, on va plus loin. On n'admet pas que la patrie puisse avoir tort. Si peu enclins que soient les hommes de tous les milieux à l'effort de l'examen critique, une absurdité éclatante, même s'ils ne la reconnaissent pas, les met dans un état de malaise qui affaiblit l'âme. Il n'y a au fond rien de plus mélangé à la vie humaine, commune et quotidienne, que la philosophie, mais une philosophie implicite. Poser la patrie comme un absolu que le mal ne peut souiller est une absurdité éclatante. La patrie est un autre nom de la nation, et la nation est un ensemble de territoires et de populations assemblés par des événements historiques où le hasard a une grande part, autant que l'intelligence humaine peut en juger, et où se mélangent toujours le bien et le mal. La nation est un fait, et un fait n'est pas un absolu. Elle est un fait parmi d'autres analogues. Il y a plus d'une nation sur la surface de la Terre. La nôtre est certes unique, mais chacune des autres, considérée en elle-même et avec amour, est unique au même degré. Il était de mode, avant 1940, de parler de la France éternelle. Ces mots sont une espèce de blasphème. On est obligé d'en dire autant, de pages si touchantes écrites par de grands écrivains catholiques français sur la vocation de la France, le salut éternel de la France, et autres thèmes semblables. Richelieu voyait bien plus juste quand il disait que le salut des États ne s'opère qu'ici-bas. La France est une chose temporelle, terrestre. Sauf erreur, il n'a jamais été dit que le Christ soit mort pour sauver des nations. L'idée d'une nation appelée par Dieu en tant que nation n'appartient qu'à l'ancienne loi. L'Antiquité dite païenne n'aurait jamais commis une confusion si grossière. Les Romains se croyaient élus, mais uniquement pour une domination terrestre. L'autre monde ne les intéressait pas. Nulle part, il n'apparaît qu'aucune cité, aucun peuple, se soit cru élu pour une destinée surnaturelle. Les mystères, qui constituaient en quelque sorte la méthode officielle du salut, comme aujourd'hui les églises, étaient des institutions locales, mais on reconnaissait qu'ils étaient équivalents entre eux. Platon décrit comment l'homme secouru par la grâce sort de la caverne de ce monde, mais il ne dit pas qu'une cité puisse en sortir. Au contraire, il représente la collectivité comme quelque chose d'animal qui empêche le salut de l'âme. On accuse souvent l'Antiquité de n'avoir su reconnaître que les valeurs collectives. En réalité, cette erreur n'a été commise que par les Romains, qui étaient athées, et par les Hébreux, et par ceux-ci seulement jusqu'à l'exil à Babylone. Mais si nous avons tort d'attribuer cette erreur à l'Antiquité préchrétienne, nous avons tort aussi de ne pas reconnaître que nous la commettons continuellement, corrompus que nous sommes, par la double tradition romaine et hébraïque, qui l'emporte trop souvent en nous sur l'inspiration chrétienne pure. Les chrétiens aujourd'hui sont gênés pour reconnaître que, si l'on donne au mot de patrie le sens le plus fort possible, un sens complet, un chrétien n'a qu'une seule patrie qui est située hors de ce monde. Car il n'a qu'un Père qui habite hors de ce monde. Constituez-vous des trésors dans le ciel, car où est le trésor d'un homme, là aussi sera son cœur. Il est donc interdit d'avoir son cœur sur terre. Les chrétiens aujourd'hui n'aiment pas poser la question des droits respectifs sur leur cœur, de Dieu et de leur pays. Les évêques allemands ont terminé une de leurs protestations les plus courageuses en disant qu'ils se refusaient à avoir jamais à choisir entre Dieu et l'Allemagne. Et pourquoi s'y refusent-ils? Il peut toujours se produire des circonstances impliquant un choix à faire entre Dieu et n'importe quoi de terrestre, et le choix ne doit jamais être douteux. Mais les évêques français auraient tenu le même langage. La popularité de Jeanne d'Arc au cours du dernier quart de siècle n'était pas quelque chose d'entièrement sain. C'était une ressource commode pour oublier qu'il y a une différence entre la France et Dieu. Pourtant, cette lâcheté intérieure devant le prestige de l'idée de patrie n'a pas rendu le patriotisme plus énergique. La statue de Jeanne d'Arc se trouvait placée, de manière à attirer les regards, dans toutes les églises du pays, pendant ces jours affreux où les Français ont abandonné la France. Si quelqu'un vient vers moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs et de plus sa propre âme, il ne peut pas être mon disciple. S'il est prescrit de haïr tout cela, en un certain sens du mot haïr, il est certainement interdit d'aimer son pays, en un certain sens du mot aimer. Car l'objet propre de l'amour, c'est le bien. Et Dieu seul est bon. Ce sont là des évidences, mais par quelques sortilèges complètement méconnus dans notre siècle. Autrement, il aurait été impossible qu'un homme comme le père de Foucault, qui avait choisi d'être, par la charité, le témoin du Christ au milieu de populations non chrétiennes, se crût en même temps le droit de fournir des renseignements au deuxième bureau au sujet de ces mêmes populations. Il serait sain pour nous de méditer les terribles paroles du diable au Christ, montrant tous les royaumes de ce monde et disant à leur sujet « Toute cette puissance m'a été abandonnée. Aucun d'eux n'est excepté. » Ce qui n'a pas choqué les chrétiens a choqué les ouvriers. Une tradition encore assez récente, pour n'être pas tout à fait morte, fait de l'amour de la justice l'inspiration centrale du mouvement ouvrier français. Dans la première moitié du XIXe siècle, c'était un amour brûlant qui prenait fait et cause pour les opprimés du monde entier. Tant que la patrie était le peuple constitué en nation souveraine, aucun problème ne se posait sur ses rapports avec la justice. Car on admettait, tout à fait arbitrairement et par une interprétation très superficielle du contrat social, qu'une nation souveraine ne commet pas d'injustice envers ses membres ni envers ses voisins. On supposait que les causes qui produisent l'injustice sont toutes liées à la non-souveraineté de la nation. Mais, dès lors que derrière la patrie il y a le vieil État, la justice est loin. Dans l'expression du patriotisme moderne, il n'est pas beaucoup question de la justice, et surtout, il n'est rien dit qui puisse permettre de penser les relations entre la patrie et la justice. On n'ose pas affirmer qu'il y ait équivalence entre les deux notions. On n'oserait pas, notamment, l'affirmer aux ouvriers qui, à travers l'oppression sociale, sentent le froid métallique de l'État et se rendent compte confusément que le même froid doit exister dans les relations internationales. Quand on parle beaucoup de la patrie, on parle peu de la justice. Et le sentiment de la justice est si puissant chez les ouvriers, fussent-ils matérialistes, du fait qu'ils ont toujours l'impression d'être privés d'elle. Qu'une forme d'éducation morale où la justice ne figure presque pas ne peut pas avoir prise sur eux. Quand ils meurent pour la France, ils ont toujours besoin de sentir qu'ils meurent en même temps pour quelque chose de beaucoup plus grand, qu'ils ont part à la lutte universelle contre l'injustice. Pour eux, selon une parole devenue célèbre, la patrie ne suffit pas. Il en est de même partout où brûle une flamme, une étincelle, fût-elle imperceptible, de vie spirituelle véritable. À ce feu, la patrie ne suffit pas. Et pour ceux chez qui elle est absente, le patriotisme, dans ses suprêmes exigences, est bien trop élevé. Il ne peut alors constituer un stimulant assez fort que sous la forme du plus aveugle fanatisme national. Il est vrai que les hommes sont capables de diviser leur âme en compartiments dans chacun desquels une idée a une espèce de vie sans relation avec les autres. Ils n'aiment ni l'effort critique ni l'effort de synthèse et ne se les imposent pas sans violence. Mais dans la peur, l'angoisse, quand la chair recule devant la mort, devant la trop grande souffrance, devant l'excès du danger, il apparaît dans l'âme de tout homme, fût-il tout à fait inculte, un fabricateur de raisonnement qui élabore des preuves pour établir qu'il est légitime et bon de se soustraire à cette mort, à cette souffrance, à ce danger. Ces preuves peuvent, selon les cas, être bonnes ou mauvaises. De toute manière, sur le moment, le désarroi de la chair et du sang leur imprime une intensité de force persuasive qu'aucun orateur n'a jamais obtenue.